Aujourd'hui, donc, le thème, c'est le rapport texte-musique. Mais comme la dernière fois, ça a été un tel cafouillis, que j'avais quand même l'intention, la dernière fois, de parler de la CAO, donc de la composition assistée par ordinateur. Donc, je me suis dit, je vais pas essayer, comme la dernière fois, de rattraper un cours, mais je me suis dit, il faudrait quand même que je parle 5 minutes de la CAO, de certains emplois que j'ai faits, juste au moins pour avoir... aborder le sujet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je parle pendant 5 minutes, je prends un exemple d'une pièce de l'emploi de la CAO et ensuite je commence le cours sur le rapport texte-musique. Peut-être l'exemple, j'ai tout de suite passé à l'exemple, c'est un exemple qui vient de congruence en fait. L'idée que j'avais, qui était déjà une idée d'autres pièces antérieures, sans électronique, c'est puisque c'était l'époque où on découvrait l'idée que la flûte pouvait devenir, grâce à l'électronique, un instrument, multiphonique, enfin multivoix. Donc l'histoire de la réverbération infinie, que vous allez entendre, par exemple, l'exemple qui, disons, la pièce... Et ça, il faut rendre hommage à cette pièce qui a ouvert cette voie vraiment, c'est Jupiter de Manoury, que vous allez entendre dimanche. Et donc, ce qui m'intéresse, c'était en me posant ce problème-là que je me suis dit une ligne mélodique, une ligne monodique, comment est-ce que je peux quand même donc exprimer un spectre, exprimer un accord? Et donc, le genre de choses que, aussi, par ailleurs, justement, aussi lorsqu'il n'y a pas d'électronique. Et donc, une des choses que, vous voyez, le genre de figuration, c'était des figurations où, en balayant, en faisant un balayage assez rapide de ces auteurs, en fait, dans l'oreille, on crée la marque, on crée une harmonie virtuelle d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça, c'était l'idée. Enfin, l'idée de cet exemple, c'était de montrer à ce moment-là qu'il y avait certaines dans cet exemple-là, mais qui est un mauvais exemple par rapport à l'autre. Mais là, les notes importantes pour moi, c'était le mi bémol, le ré et le la bémol et le la. Et c'était ça l'accord qui était l'accord principal. Donc, en faisant un balayage rapide, donc c'est des figurations très rapides. Dans l'oreille, il y a cette harmonie qui se met en place. C'est-à-dire qu'on entend ça, la mémoire va verticaliser l'écoute. Et donc, dans l'idée de la CAO, après, c'était que ce que je souhaitais, c'était avoir des figures composées de petits motifs. C'est-à-dire que le premier motif, un des premiers motifs de la flûte, par exemple, c'était... C'était cette chose-là. Donc, en même temps où je donnais certaines des notes à ce moment-là qui sont des notes importantes, mais en plus, donc, il y a des cellules de... Là, c'est des cellules B, et ça, c'est des cellules C. Très vite, disons, si je joue ça, déjà, en fait, ben, je crois que pour tout le monde, c'est une évidence, hein, mais en même temps, c'est une harmonie qu'on crée. On entend ça, l'oreille... Et en plus, donc, on a des intervalles, une qualité d'intervalle qui va s'imposer. Donc, dans l'idée de l'emploi de la CAO, alors à l'époque, il n'y avait pas encore Open Music ni Patchwork. Il y avait Preform. Ça, c'était ce qu'employait surtout Magnus. Et moi, ce que j'avais employé à l'époque, c'était quelqu'un qui mettait au point un programme d'aide à la composition avec Prologue. Prologue était un programme qui existe toujours, mais qui est un peu disparu. Et l'idée de celui qui travaillait sur ce programme, c'était de créer une aide où, en fait, on pourrait écrire quelque chose, le programme regarderait ce quelque chose et de lui-même engendrerait des règles de composition. Avec ce programme, ce que j'avais fait, c'était que je voulais justement, donc là, donc ce que je vous dis, B, C, B. Donc vous voyez ici, C, ce sont l'intervalle, c'est l'intervalle de septième, et B, c'est le triton. Et donc dans ces figures, la première chose, c'était de, on pouvait créer des figures où il y avait une chaîne de ces trois figurations différentes, à savoir donc la septième majeure, le triton, la septième majeure avec une sixte, enfin tierce mineure, sixte mineure. Et ça, c'était donc la machine. Je pouvais décider, dans un trait comme ça, donner un coefficient qui allait décider quelle est la couleur dominante d'un trait. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, dans ce trait-là, il y a une dominante de la septième et du triton, mais très peu de ce que j'appelle l'élément A, la cellule A. Alors qu'ici, c'est la cellule A qui commence à s'imposer de plus en plus. Donc la couleur de la tierce avec la septième. Donc des variantes, toujours de la même chose. Et donc ça, c'était une chose. Donc on pouvait décider allait être le contenu intervallique, donc quelle allait être la couleur. C'est-à-dire que si par exemple je fais pour démontrer ce que je veux dire, si je fais, c'est sûr que ce qu'on entend surtout, c'est les quintes. Donc c'est ça ce que j'appelle par la couleur du contenu intervallique dans un trait. Ensuite, ce que je faisais, ça je l'employais dans beaucoup plus tard dans la pièce, c'est que je pouvais, donc j'avais des suites d'accords, et je demandais à la machine de me créer des sortes de traits, par exemple des figurations, où on allait avoir un ample, disons partir peut-être, où on allait avoir une prépondérance de la quinte diminuée, et ensuite passer sur une prépondérance de ce cellule A, mais en passant par peut-être 6 ou 7 accords. Et il va essayer de trouver les traits. En plus, on pouvait décider, donner quelle était la direction du trait. C'est-à-dire de dire, c'était un constraint, de dire, de manière générale, je veux que ce trait soit ascendant, par exemple. Alors, tout ça, en théorie, c'est très bien. En pratique, c'est que à l'époque, et moi j'ai une relation très... avec la CAO, c'est une chose assez conflictuelle. Parce qu'en fait, je ne suis jamais content de ce qu'on me donne la machine. Donc en permanence, je suis en train de corriger la machine. Et parce que dans les règles qu'on donne, qu'on se donne à soi-même, c'est-à-dire que si je fais la même chose, finalement, souvent, je l'ai fait à la main aussi, il faut le dire, parce que souvent, c'est ça où notre cerveau est une chose tellement riche, est tellement basée sur une expérience, sur des goûts, sur une trajectoire, des décisions qu'on a prises dans sa vie, de certaines choses, qu'il est difficile, en fait, d'arriver à la même capacité de filtrage dans la machine. Je m'explique, dans une autre pièce, par exemple, Rhizome, je ne sais pas si vous vous souvenez du long concert, il y a un passage où les woodblocks commencent. Et après le woodblock, il y a l'idée de très très rapide, complètement synchrone, où les deux pianos jouent avec les woodblocks. Et c'est une sorte de course de vitesse, une sorte de nappe. Et l'idée au départ, c'était en fait que le premier départ du nuage, c'est que les pianos, ce soit le chaos. C'est-à-dire que le chaos soit une chose qui... et que à chaque apparition d'un nuage, il y a une constraint, une règle de plus, enfin une contrainte supplémentaire. Et à la fin, on arrive sur une harmonie complètement figée. Donc il y a de plus en plus, les hauteurs, les octaves sont définies, les hauteurs, il y a de plus en plus une règle. Et on arrive, donc on fait un criblage, un filtre. Mais sauf que quand on dit à la machine de faire du chaos, eh ben, c'est un chaos qui ne convient en généralement jamais. C'est-à-dire que si on demande à une machine de vous faire random, c'est ce que j'avais demandé, c'était avec Patchwork, etc., ça ne me convenait pas du tout. Parce qu'en fait, le chaos qui me convient n'est pas du tout un chaos. Parce qu'un chaos, ça veut dire n'importe quoi. Et la machine vous donne n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ça veut dire qu'au milieu de je sais pas quoi, d'un coup on va avoir, et après ça continue. Et donc, ce qui est du chaos pour la machine n'est pas pour moi du chaos. Dans l'emploi de la CAO, une des complications, c'est d'arriver à donner des données de départ qui vont être suffisamment fortes pour retrouver ce que soi-même on a comme attente harmonique, etc., gestuelle. Voilà. Et donc, que ce soit dans cet exemple-là, que ce soit dans Rhizome, justement, moi, j'ai toujours passé ma vie à recorriger ce que me donnait la machine parce que ça n'a jamais vraiment fonctionné comme j'aimerais. Les choses, j'ai jamais été très heureux. Mais c'est vrai qu'en même temps, par exemple, en congruence, il y a un moment donné, l'idée, c'était d'avoir une homophonie très, très rapide où tout le monde joue, mais d'arriver à avoir un contrôle sur la couleur, sur quelle, tout en ayant justement toutes ces contraintes intervalliques, les contraintes harmoniques, et d'avoir en plus un geste ascendant, enfin, etc. Enfin, et donc pour ça, à un moment donné, ça m'a été très pratique d'employer ce programme, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été... Bon, voilà. Je voulais juste... Est-ce que ça c'est clair, simplement? Je crois que c'est assez simple comme exemple. Je voulais juste aborder un petit peu la CAO, parce que d'une certaine manière, j'ai toujours un petit peu un problème avec la CAO personnellement, mais voilà. Mais je crois qu'en même temps, ce qui est intéressant en travaillant avec la CAO, c'est justement d'essayer soi-même de définir un certain nombre de règles, de lois, d'objectivité, d'essayer de ausdrücken, de dénoncer un certain nombre de problèmes et de régler, je veux dire, de dénoncer des règles sur lesquelles ensuite on va soi-même. Moi, disons, d'essayer de penser à la machine, ça m'a obligé moi à penser. Une autre chose que j'ai beaucoup appris à l'IRCAM, ça n'a peut-être pas l'air toujours, mais en tout cas, c'est que on travaille souvent avec un assistant. Et c'est un exercice extrêmement difficile de communiquer avec une autre personne et lui expliquer ce qu'on attend musicalement. C'est un exercice qui est difficile, mais qui n'est pas inutile. On est au moment d'une composition, de devoir, de formuler une idée, d'arriver à la communiquer, c'est déjà aussi s'obliger soi-même à comprendre mieux ce qu'on cherche. Donc pour ça, c'était une des choses qui était pour moi très bien à l'IRCAM aussi. Voilà, on va commencer le vrai sujet d'aujourd'hui, qui est donc la relation texte-musique. Alors, pour commencer, j'aurais voulu qu'on écoute une pièce qui s'appelle « D'ombre lointaine ». Aujourd'hui, il y a deux pièces. Donc, « D'ombre lointaine », qui est une pièce pour voix et orchestre. Et puis après, on va aborder « Cassandre », qui est une sorte de monodrame. Enfin, moi, j'appelle ça un opéra parlé. On va aborder ces deux manières. C'est aussi parler de la problématique de l'emploi du texte, du moment qu'on. On va écouter la pièce, je crois, c'est surtout mieux. Ce que je vous demande maintenant, là j'ai aujourd'hui peut-être un peu plus de partitions et vous êtes un peu moins, donc on arrivera peut-être à. J'aimerais bien les retrouver, les partitions. C'est-à-dire, surtout celles où il y a des annotations. Donc je remercie celui qui avait pris le concerto pour violon, qui était la mienne, de me l'avoir redéposé. Les autres, ça m'est pas égal, mais surtout celle où il y a des croix. Le reste, l'éditeur, c'est pas mon problème. Mais quand même. Donc si vous, je sais qu'il y en a une ou deux qui sont annotées, et je vous en prie, celle-là qu'elle soit redéposée. Voilà, par exemple, celle-là, j'aimerais bien la. Attendez, j'ai déjà ça. Vous pouvez descendre devant sinon? Non? Enfin, je sais pas, il y a. Comme ça, on peut. Enfin, oui. Voilà. Alors, ça c'était. Ça c'était. Le deuxième essai sur des textes de Léonard de Vinci. Le premier essai avait été la première version de Forme Fragment. C'est-à-dire ce que vous avez entendu le premier soir, dans le premier concert, était basé sur des textes de Léonard de Vinci. Et à ce moment-là, j'avais trouvé des fragments de certaines observations de Léonard. Et puis, en faisant ça, j'avais gardé de côté un certain nombre d'observations qu'il avait fait sur la nature. Et c'était une chose qui me paraissait... Enfin, moi, j'ai adoré ces textes, mais je n'ai pas voulu les employer pour Forme Fragment. Et je m'étais dit, je veux absolument employer ces textes pour une autre pièce. Et ce qui me fascinait dans ces fragments, et que j'ai aussi essayé d'employer ça même comme idée dans Forme Fragment, c'est que Léonard était quelqu'un qui, on le sait, est un homme d'exception, etc., et quelqu'un qui était un grand artiste, mais qui était aussi un scientifique. Et donc, ces observations qu'il fait, il essaye d'un côté d'être extrêmement objectif, extrêmement, disons, il essaye de garder une certaine lucidité, d'essayer de traduire une chose, disons, de faire une vraie observation scientifique. Mais en même temps, comme c'est un tel, disons, c'était un tel artiste, il ne peut pas s'empêcher de quand même donner une certaine, disons, un certain lyrisme, enfin de donner une sorte d'impression plus subjective. Et ce combat qu'il y a, je dis, entre cette sorte de tentative de rester objectif et cette subjectivité fait qu'à mon avis ces textes ont une grande poésie, il y a une grande vie intérieure parce qu'on sent cette tension en permanence, je trouve. Et donc c'était une des choses, par exemple, dans le début de la pièce de Forme Fragment, que j'ai essayé de prendre deux choses extrêmes, c'est-à-dire un sorte de son très brutal, assez pur, puisque le son du début c'est un son dans le piano gratté, mais qui est très peu transformé d'ailleurs, et puis une sorte de petites voix qui sont très très retenues, très très intérieures, enfin d'avoir tout de suite ces deux plans. Dans D'ombre lointaine, ce que j'ai essayé de faire, et c'était la première pièce qui était comme ça, parce que j'avais beaucoup travaillé avec la voix, en découpant les voix, enfin les syllabes, donner d'un sens. C'est toujours, disons, en tout cas, ce qui est sûr, ce qui reste toujours, c'est que je trouve que si on emploie un texte, il est important de... il faut qu'il y ait un lien interne très fort, parce que sinon, la littérature, disons, est une des choses qui me sert beaucoup quand j'écris, que ce soit dans des pièces où il n'y a pas de voix comme modification, qui sont des choses qui sont... C'était de la modification de Michel Butor. C'est des choses que j'emploie très fort pour la structure interne, pour l'organisation d'une pièce. Et là, ce que je voulais, c'était qu'on comprenne la voix, parce que je voulais, parce que la voix donne toujours, en fait, la structure musicale. C'est-à-dire qu'on va revenir sur ça, mais ce qu'elle chante, ce qu'elle dit, bon, sauf que il faut savoir que le langage de Léonard était assez particulier, parce que c'était un langage italien qui est un mélange de latin, de patois et de vieil italien, ce qui fait que quand les Italiens aujourd'hui le lisent, ils sont toujours en train de dire « c'est pas juste là, je comprends pas ce mot ». Mais en plus, c'est bon, comme si on chantait en italien, enfin chanter dans ce langage léonardien. Quand je dis ça est important qu'on le comprenne, c'est aussi une sorte de... c'est relatif quelque part avec le temps, pareil. Donc finalement, c'est toujours dans ce... pour venir au point, et on va en discuter après, c'est que c'était ça mon idée, mais je l'ai fait chanter. Et quand cette pièce a été créée à l'époque à Donna Eschingen, ça a fait un grand remous parce que d'un coup on a commencé à dire « Ah, c'est le retour au bel canto, c'est le retour au grand chant italien. » Alors j'étais complètement surpris par la réaction parce que c'était absolument pas mon but. Et donc c'est comme, c'est ce que je vous dis, moi ma spécialité c'est d'avoir un projet qui n'est jamais celui que les gens perçoivent. Et donc là, c'était pareil, je pensais être très clair, retenu. Et en fait, on va en parler, on va écouter. Et alors, la pièce dure quand même presque 20 minutes, donc je vous demande un peu de patience. Et donc là, c'est l'orchestre de la soupe des Sfunk. C'était au moment de la création. Donc, entre-temps, ça dépend des partitions. Il y a certaines qui ont quelques corrections que vous n'allez pas entendre parce que c'était tout de suite. Il y a eu une production pour le disque tout de suite après la création, les jours qui suivaient. Voilà. Voilà.
la luna è più scuro che nessuno degli altri. I più remoti sono più chiari e la parte del nuvolo che è trasparente dentro pare più chiara che alcuna altra simile parte. Quanto le nuvole sono più discosti dalla luna, il loro lume è più alto che avanza intorno all'ombrosità. Massime di verso la luna e quel che sottile non ha né grevene, il poco albore. Perché in lui penetra l'oscurità della notte che si mostra nella. Thank you.
Et donc, voilà. En même temps, je dois dire, donc comme je vous disais à l'époque, c'est donc la pièce date il y a 10 ans, comme ça. Ça avait fait pas mal de remue-ménage. Et pareil, aujourd'hui, avec le temps, je me dis, quand j'entends, j'ai moi-même un peu de problème avec la voix chantée. Mais bon, j'ai décidé de ne pas toucher à ça, parce que c'était ça l'idée de la pièce. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi à plusieurs points. C'est-à-dire, je me suis retrouvé au milieu de discussions énormes où des gens me disent... Il y avait même des gens qui enfin, il y avait c'était assez agressif, tout ça. Et donc il y avait des gens qui disaient « Oui, mais en fait, vous décrivez les textes, vous ne faites que de décrire les textes, vous parlez de nuages, et puis on entend des petits nuages, et puis d'autres personnes qui disaient « Non, 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 moi je ne suis pas d'accord, je connaissais les textes avant, jamais j'aurais pensé qu'on puisse mettre autant de sentiments, autant de lyrisme ou autant de sens dans ces textes. Pour moi, c'était des textes très froids et maintenant, il y avait beaucoup de va-dire. Et moi, mon idée était, comme je disais dès le départ, c'était l'idée d'avoir un texte qui décrit quelque chose. Et en plus, certaines fois, donc l'idée c'était d'avoir un parcours du texte où quelquefois, et justement le passage du milieu, donc qui était un des endroits très attaqués, c'était l'idée, justement cette histoire des petits nuages, c'était l'idée où il y a un croisement, enfin où le texte et la musique se rejoignent, et en fait il y a une chose qui effectivement colle ensemble. Donc c'est vrai que c'est des petits nuages au niveau de la musique, et ça, je ne peux pas me défendre de ça. Ça, c'était une chose. Dans l'autre chose, c'est vrai que souvent dans les textes qu'il y a, il y a des questions. C'est-à-dire que souvent, par exemple, à un moment, je m'excuse pour les Italiens qui doivent écouter la prononciation extraordinaire de la chanteuse anglaise. Mais, par exemple, à un moment donné, on dit la lune, enfin le texte de Léonard, c'est la lune dense et grave, dense et grave. Comment tient la lune? Avec un point d'interrogation. Et l'idée, c'est que souvent, ces fragments, ce sont des choses, il parle d'une chose et d'un coup, il se pose une question. Et il remet ça à plus tard, en se disant, je vais répondre pour lui-même, tiens, il faudra que je pense à ce problème-là. Et donc, dans la musique, quelquefois, j'essayais de me dire, tiens, bon, moi, je vais essayer de répondre à ces questions. Mais pour venir, disons, plus concrètement, par exemple, le début de la pièce, c'est, en français, la deuxième phrase, c'est « Tu décriras un vent terrestre et marin, tu décriras une pluie. » Alors, je me pose encore aujourd'hui la question. Hein, je vais vous dire, ça, c'est une des pièces qui me font beaucoup douter. Mais l'idée, c'était... Alors, évidemment, l'idée, c'était cette idée de décrire un paysage. Alors, la première partie, c'est « Tu décriras un paysage avec... » Enfin, j'ai pas la traduction, mais avec vent et eau... Avec un coucher ou un lever de soleil, tu décriras. C'est-à-dire que c'était l'idée, c'était pour lui un moment où il se donne un devoir de dire il faudra que je regarde ça, que j'observe et que je. Alors, moi, pour moi, l'idée, c'était effectivement la structure de la musique, mais c'était pas. C'est là où est la différence, je ne suis pas sûr, justement. Pour moi, c'était pas bon, alors je fais un paysage avec de la pluie. C'était, je me disais, bon, comment ça peut fonctionner, justement, un paysage avec de la pluie? Alors, qu'est-ce que ça représente? Donc, c'est gouttes d'eau, c'est une structure irrégulière qui crée des. Enfin, il y avait tout un. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Donc, le début de la pièce, c'est cette idée. Mais alors, en même temps, on peut dire que c'est une impression, puisque ça, c'était aussi le fameux terme qui est sorti à ce moment-là de néo-impressionnisme. Mais en même temps, ce n'était pas du tout pensé comme ça. C'était vraiment la structure, l'idée d'observer moi-même aussi comment j'imagine un paysage sous la pluie et d'essayer de regarder comment ça fonctionne et de traduire ça au niveau musical, mais au niveau d'une technique employée. Alors, je ne sais pas. Justement, ça, c'était un moment où, en fait... bon, ça, c'est un exemple. Je pourrais prendre d'autres exemples. Mais en même temps, j'aimerais bien vous poser justement la question de savoir comment vous réagissez par rapport à ça. C'est-à-dire, comment est-ce que vous entendez cette voix? Parce que c'était une grande discussion que, justement, j'avais eue avec d'autres compositeurs, et les gens étaient très divisés sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une opinion sur ça, déjà. Ça m'intéresserait d'avoir une... Je lance la... Ah, pardon. Oui, non? Personne ne va intervenir? Non, sinon je continue. C'était pas... Mais c'est un sujet, c'est une chose qui m'est très sensible. Donc, ça m'intéresse toujours de savoir ce que pensent les gens.
Ben, moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est au niveau de la voix, pourquoi vous n'avez pas essayé d'utiliser des techniques d'écriture plus contemporaines, quoi. Est-ce que c'était parce que c'est un rapport avec le texte, avec le sens du texte que vous voulez donner, ou bien...
Non, mais c'est ce que je disais au départ. J'avais fait beaucoup de choses où on décomposait le langage, et là, au contraire, je voulais absolument avoir un texte que l'on comprenne. Alors après, effectivement, il y a l'esthétique musicale qui va faire que je vais faire certaines phrases. Et c'est-à-dire que, à la limite aujourd'hui, en ayant fait Cassandre, je me sens pas, c'est qu'à la limite, peut-être que j'aurais dû faire parler simplement la chanteuse. C'est-à-dire qu'elle aurait dû simplement dire, au début d'un passage, tu décriras un vent terrestre et marin, tu décriras une pluie. Et d'éviter les déclinaisons de la phrase musicale. Ce qui m'intéressait, c'était qu'une fois, de faire une pièce où, je veux dire, on peut comprendre, au même titre que, par exemple, C'était un, moi, j'ai moi-même, j'étais pas du tout à Paris à ce moment-là, donc j'ai loupé cet opéra, mais l'opéra de Philippe Manoury, où lui aussi c'était un problème qu'il voulait qu'on comprenne le texte, a beaucoup repris l'idée de la voix, comme, disons, énoncée comme dans Debussy, dans Pelléas, c'est-à-dire un parlando chanté, pour qu'on comprenne bien.
Oui, oui, mais ça reste un instrument quand même, la voix. C'est-à-dire, vous pouviez essayer de la traiter quand même comme un instrument, plus que uniquement comme moyen de transmettre du texte, parler ou chanter.
Ben, dans ce cas-là, ça c'était un autre problème. C'est-à-dire que je m'étais dit, oui, bon, c'est-à-dire que l'écriture contemporaine pour voix, c'est souvent considérer justement la voix comme un instrument. Et qui permet beaucoup de choses. Hein. C'est, je veux dire, Boulez, par exemple, est particulièrement un exemple de quelqu'un qui emploie la voix comme il emploiera une flûte. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Si on regarde l'emploi de la voix dans les improvisations, il n'y a pas grande différence. Et moi, c'était au contraire de me pencher justement sur la voix chantée, les registres, de comprendre, de quand même essayer de dire je l'emploie d'une manière vocale. Enfin, donc de comprendre, enfin, d'essayer de jouer ce jeu-là, quitte à avoir décidé maintenant de faire le pas, de dire je veux qu'on comprenne le texte, essayer de faire un pas, d'aller un pas plus loin et de... Mais vous pouvez, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez tirer à bout portant. Hein,
I just wanted to say that I've noticed in the history of music that the music has changed in the way that people communicate through tonal structures or harmonies or different modal structures. But people speak to each other the same. I mean, maybe this is changing too, but speech or people talking to each other, there's sort of a simplicity in it. And when I hear the evolution of song in this contemporary melodic structure, it's very incongruent mm-hmm. to the way that I think the voice communicates. So the trouble I was having was the juxtaposition of the speaking and the singing simultaneously. So I was most interested in your decision to mix the two simultaneously. And because that created some confusion for me.
Mm-hmm. Well, that I would say was leftovers.
You can use French, so.
Oh, sorry. Ça, c'était aussi des restes du langage que employé avant cette pièce-là. Enfin, je veux dire, mais c'était aussi, non, dans certains passages, c'était une préparation au passage parlé. Il y a des mots qui sont des mots clés pour la structure de la musique que je vais faire sortir avec la voix parlée. C'est-à-dire pour les sortir justement du caractère mélismatique de la voix. Mais je vous dis, 10 ans plus tard, j'ai un peu les mêmes réactions que vous avez. Mais bon, c'est une décision de me dire je ne vais plus toucher à cette pièce, c'est comme ça, c'était un projet. Et mais ça m'intéresse parce qu'en même temps, je ne suis pas complètement convaincu du problème aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant. Je suis un peu mitigé par rapport à la... enfin, bref. Ah, il y a quelqu'un...
Je ne suis pas compositeur, mais la réflexion que, enfin, votre réflexion me fait poser la question suivante. Est-ce que quand, dans le contexte où vous avez composé votre œuvre, vous avez imaginé une autre solution? Vous auriez imaginé un langage instrumental, par exemple, comme il est dit, à l'inverse. Est-ce qu'on peut prendre le problème à l'envers? Est-ce que vous auriez imaginé de faire autre chose, un autre traitement au moment où vous avez fait ce choix?
Non, du tout. Non, du tout. J'étais... ça me paraissait une évidence. que c'était et ça qui
par, par ailleurs, par rapport à ce que vous dites du, du texte même de Léonard de Vinci, le fait même de vouloir en fait vous attacher beaucoup au sens plutôt qu'à la... Enfin, si, il y a évidemment le, tout le rôle de la phonétique, enfin de, du texte, de la charge musicale du texte, mais il y a aussi le sens. Et apparemment, enfin, si je vous entends, vous avez décidé de privilégier le sens du texte. Donc à ce moment-là, l'intelligibilité allait passer avant un traitement poétique, on va dire, ou instrumental, ou enfin ou éclaté, enfin, dans, oui. un autre traitement
c'est-à-dire musical. Je crois que là où je me suis fait prendre au piège, si j'ose dire aujourd'hui, c'était qu'en même temps, vu ma nature, je ne pouvais pas accepter de, en même temps d'avoir une voix qui serait chantée, mais complètement retenue et qui ne... C'est-à-dire que je pense que j'étais dépassé... peut-être à la manière de Leonardo, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher quand même de donner un sens musical à une phrase. Et que je ne pouvais pas rester complètement en arrière.
Une charge émotionnelle, enfin une charge...
Et c'est peut-être là où il y a justement un dérapement qui est arrivé. Je sais pas. Et, enfin, bon, j'ai décidé de montrer cette pièce, hein, parce que ça va nous amener à la pièce suivante, Cassandre. Et deux, parce que, justement, c'est pareil. Je pense que, justement, je pense que pour un compositeur, il est essentiel de temps en temps de se casser la figure et d'être assez, je vous dis, enfin c'est ce que c'est toujours ma théologie, enfin c'est que il faut être dur avec soi, enfin être exigeant avec soi-même et pas donc c'était une expérience et j'en retire pas mal de leçons. Et encore aujourd'hui, bon, il y a des choses, beaucoup de questions, enfin ça pourrait être une longue discussion, mais je veux pas qu'on déborde trop. Je voulais juste avoir une première réaction, mais où je pense que effectivement, c'est l'emploi du texte, il y a une charge dans un texte de sens qui est effectivement très difficile, où il y a une complication. J'aborde maintenant Cassandre, parce que ça va être a priori une pièce qui a été une pièce aussi à problème, mais il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Mais je vais peut-être d'abord commencer à dire deux, trois mots dessus. L'idée de... il y a une réaction avant que je continue.
This is just a question before you move on.
Yeah.
The spoken voice, is it taken to be a narrative that then perhaps directs, that perhaps opens a direction to fuse the two worlds of instrumental and voice? Is that the spoken voice used in that way? Just so I can clarify some points for myself.
Yeah.
Because I noticed that is a directive. Sometimes there's a point in this piece where you say, I open a window so that the aria can speak, and then she sings.
Mm-hmm.
And that's I'm trying to clarify that function. And then the other question would be, for me, there was, I was trying to connect the instrumental world with the vocal world. At only perhaps a few points that occurred, and it was quite beautiful. It had to do with timbral connections between the two worlds.
Mm-hmm.
So that's the. But I was trying to see if that was your intention, or whether you had intended what the different worlds meant, and so that when you propel onto Cassandra, you can explore that further.
Yeah. Well, within the piece, I actually was. Dans la pièce, il y avait justement la structure globale de la pièce. Et donc, il y a des passages comme le début, la fin, le milieu, qui sont complètement parlés. Donc, il y avait aussi l'idée d'une structure globale. Et ces textes aussi, il y avait un choix que je voulais créer des. À ce moment-là, on parle des choses du ciel, enfin de l'horizon, enfin ou du ciel, etc. J'avais choisi ça à l'avance, que ces passages-là allaient être parlés et que j'allais essayer de créer des moments de progression allant vers le parler. Ou, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un passage effectivement qui est plus peut-être opératique, ou je veux dire, c'est le moment où il dit la le terme d'une chose, ça fait commencement d'une autre. Rien n'est que, enfin, nichts ist jenes, was nicht Teil von etwas ist. Enfin, c'est des réflexions sur sur le vide et sur le commencement d'un objet, etc. Sur ce passage-là. Et là, l'emploi de la voix, c'était toujours une sorte de manière, c'était de faire de créer le problème des formes. Parce que le problème, c'est où commence, comment commence, enfin, c'est ligne de démarcation. Et donc, j'employais la voix parlée à ce moment-là comme des lignes de démarcation. Mais bon, pareil, hein, c'est de nouveau, l'idée qu'on a, ce n'est pas forcément l'idée qu'on perçoit. Donc, je pense que ça a pris, c'est devenu une chose beaucoup plus dramatique que c'était pensé au départ. Bon. Pour passer à Cassandre, c'était au départ, j'avais un projet pour un opéra on m'avait demandé d'écrire un opéra et donc l'idée c'était de, j'avais découvert un ami à moi m'avait fait découvrir un texte de Christa Wolf, le texte de Christa Wolf qui s'appelle Cassandre. Et Cassandre étant un monodrame, enfin une pièce, en fait, qui est un livre, un très très beau livre, un livre très important dont je vous conseille de le lire, surtout qu'il est extrêmement bien traduit en français par Alain Lance. Et ce texte a été employé, disons, après en théâtre en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu une première adaptation, disons, pour une pièce radiophonique par le mari de Christa Wolf. Et il y a eu, disons, pas mal de théâtre en Allemagne, surtout au départ, qui employait cette adaptation pour faire des pièces. Enfin, soit ça pouvait être une actrice ou plusieurs actrices. Enfin, il y a une certaine liberté pour les metteurs en scène d'employer cette adaptation de Gerhard Wolf. Cassandre, je pense que vous savez qui c'est, mais enfin, c'était surtout une Troyenne, et ça se passe au moment de la guerre de Troie, et vous savez, le mythe de Cassandre, c'est qu'elle peut prédire l'avenir, mais en même temps, comme elle a eu, enfin, ces histoires de dieux sont toujours un peu des histoires de vie aussi, enfin, comme elle se refuse à Apollon, Apollon qui lui a donné ce don de prédire l'avenir va la punir en même temps parce qu'elle se refuse à lui, c'est-à-dire la punit en soi que quoi qu'elle dise, on n'en croira jamais. C'est-à-dire qu'elle peut prédire l'avenir, mais on n'en croira pas. Et puis, donc, dans le projet de l'opéra, c'était de me dire, j'avais envie de faire... Il y avait d'un côté un niveau qui était le grand opéra. C'était l'Iliade, c'est-à-dire c'est la version des vainqueurs, des Grecs. Donc la guerre de Troie racontée par les Grecs, donc avec grand orchestre, chœur et tout le tralala. Et puis, juxtaposé avec la Cassandre de Christa Wolf, qui est la version des vaincus, si j'ose dire. Parce que je pense que vous êtes... Enfin, c'est une des choses qui m'est venu de plus en plus clair à ce moment-là, c'est que l'histoire que nous connaissons du monde, c'est l'histoire des vainqueurs. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais sur l'histoire des vaincus. C'est-à-dire que pour pousser à l'extrême, même à être désagréable, on ne peut pas savoir qu'est-ce que... Enfin, l'histoire serait de notre... Aujourd'hui... Enfin, si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, aujourd'hui, ce qu'on apprendrait, ce ne seraient pas les mêmes choses. Les conséquences qu'on en tirerait ne seraient pas les mêmes choses. Je ne veux pas dire que ce serait mieux ou moins bien, mais Mais je veux dire, notre réalité serait différente. Donc, moi, en tant qu'enfant, que les Grecs sont beaux, ils sont magnifiques, Hercule est un héros, c'est l'héros de la guerre de Troie, c'est un bel homme, c'est tout ce qu'on veut. Et alors, ce qui est fantastique, première chose dans le texte de Christa Wolf, c'est justement, par exemple, comme elle parle des Grecs, C'est-à-dire que justement, Hercule est une sorte de bête atroce, monstrueuse. Enfin, il y a toute une remise en question des images, enfin, des images qu'on a reçues dans nos livres d'histoire. Et surtout, à ce moment-là, j'avais. Donc, c'était un peu. C'était le moment de la guerre du Golfe. Et donc, on avait ces sortes de. On avait ces images CNN avec le bombardement de Bagdad, et puis tout était magnifique, et puis tout était simple, c'était même très beau de voir que tout était vert, et puis enfin, c'était comme un feu d'artifice comme hier soir. Et puis d'un côté, de temps en temps, on avait des petits moments où on voyait quand même une femme irakienne dont son mari et ses fils avaient été bombardés. Enfin, un destin individuel. Alors ça, c'est l'autre chose qui m'intéressait. C'était d'un côté d'avoir donc, les vainqueurs, CNN, et de l'autre côté, au milieu de ça, un destin d'une personne dans cette histoire. Et ça, pareil, ça c'est une chose qu'on oublie toujours dans notre histoire, c'est le destin de l'individu. Passe complètement weggefegt, comme on dit. Et alors, c'était ça que je voulais essayer de mettre en c'était ça l'idée de l'opéra. Plus ça a été, et plus je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Je me suis intéressé au côté CNN.
Il y a un problème ?
Il scratch.
Oui, pardon.
Alors, plus, c'est peut-être moi qui scratch.
Plus ça a été, moi je me suis dit qu'au fond c'était pas très intéressant cette idée du CNN et que c'était finalement beaucoup plus fort de s'intéresser à cette personne parce que plus je lisais ce livre, plus je me rendais compte que cette personne qui a vu, a prédit la fin de sa ville, disons sa défaite, la mort de son père, le viol de sa mère, de sa sœur, le meurtre de son frère. Tout ça, elle le prédit, tout ça, elle a vu, et elle n'a rien pu faire. Donc, cette sorte de désespoir, maximum, je me suis dit, c'est peut-être la chose qui est la plus intéressante dans ce texte. Mais plus j'ai travaillé à ça, plus je me suis dit, mais c'est absurde. En même temps, elle, dans ce récit, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au fond, le récit commence par, elle attend, la guerre est déjà finie, et en fait, elle est prisonnière, et elle sait que dans une heure, elle va être sa fin. Et pendant cette heure-là, en fait, elle revit, donc elle repense dans un désordre, toute son histoire, toute cette histoire. Et plus je travaillais à ça, plus je me suis dit, mais c'est absurde de la faire chanter, cette personne, parce que elle, qui sa fonction même est de prédire l'avenir, de voir l'avenir, là, pendant une heure, elle ne fait que de regarder en arrière. Elle est complètement hors de son personnage. Elle ne joue plus son personnage. Donc, et ça, c'est une chose, quand on commence à s'intéresser à la scène, à l'opéra, je veux dire, on ne peut pas faire chanter n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui sur scène, contrairement à la pièce d'un français. Ça me paraissait une évidence qu'elle ne pouvait pas chanter. Donc, il fallait la faire parler. Alors, c'est-à-dire que je passais d'un grand opéra avec un ensemble qui allait être musique de chambre et puis qui tout ça, un grand spectacle, à ôter le chœur, l'orchestre pour me retrouver avec un petit ensemble avec une chanteuse, pour finalement me retrouver avec un petit ensemble et l'idée qu'il fallait quelqu'un qui parle. Donc actrice. Alors, ça avait fait un peu des histoires au Châtelet aussi, enfin pour le théâtre pour qui c'était écrit, puisqu'on partait dans le truc. Mais je crois que. Mais non, donc, arrivé à ce stade-là, j'ai commencé à retravailler l'adaptation parce que le texte, le récit de Christa Wolf est très long. L'adaptation de Gerhard Wolf est très longue. aussi parce qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs histoires qui se passent. Et donc moi, j'ai fait un énorme travail, enfin j'ai fait une adaptation moi-même, m'attachant surtout à une des choses qui m'intéressait fondamentalement, c'était parce qu'elle essaye aussi de décrire le déclenchement de la guerre. Comment est-ce qu'une guerre se déclenche? Comment est-ce que c'est possible? Et ça, je trouve qu'elle le fait d'une manière extrêmement forte, et je vous conseille vraiment de lire ce texte, parce qu'il y a des choses très 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 belles. Parce qu'il y a des phrases qui sont des phrases quand elle dit, par exemple, enfin je veux dire, quand commence la guerre, ça on peut le savoir, mais quand commence l'avant-guerre, c'est-à-dire quand commence ce mécanisme, ça c'est beaucoup plus difficile. Enfin, il y a des choses, c'est vraiment un texte, je pense, énorme. Bon, sur ça, du moment que je mettais en scène de la voix parlée, je devais choisir, est-ce que c'est une chanteuse qui va parler ou est-ce que c'est une actrice? Et là, donc, je me suis dit, je voulais que ce soit une actrice. Donc, au moment où j'employais l'actrice, je devais imaginer certaines stratégies pour pouvoir avoir une synchronisation entre le déroulement de la musique et la voix parlée. Alors, pour l'acteur, c'est un travail énorme, parce que c'est une heure de texte avec un texte très difficile, plus elle doit mémoriser toutes sortes d'événements musicaux qui sont des signes, parce que autant elle va donner des départs au chef, où il va y avoir des choses, vous allez voir très vite au début, il y a un continuum par exemple de notes rapides, et puis le chef lui va réagir sur certaines phrases, alors tout en gardant un tempo, d'un coup il va donner certaines impulsions qui eux réagissent par rapport au texte. Mais bon, il y a toutes des sortes de conventions et de signes qui font que... Ce qui arrive alors à ce moment-là, c'est que là, de nouveau, on tombe dans un domaine délicat. C'est que c'est une pièce qui a été énormément jouée, qui a été créée à Paris au Châtelet avec Marc Keller, etc., qui a fait plusieurs productions en Suisse, etc. Et après, c'est... une actrice qui s'appelle Anne Bennett, qu'on va voir tout à l'heure sur la vidéo, qui avec l'ensemble moderne a fait toute une tournée en Allemagne. Et Marthe avait décidé de jouer le jeu, c'est-à-dire de se dire, je comprends le projet que c'est un opéra parlé, c'est-à-dire que je veux suivre aussi la musique. Enfin, il y avait tout un... il y avait des parcours, c'est-à-dire quand est-ce que c'est la voix qui domine, quand est-ce que c'est la musique qui domine, quand est-ce que c'est la musique qui enclenche quelque chose, et quand est-ce que c'est la voix qui enclenche, le théâtre qui enclenche quelque chose. Et donc il y a un moment donné où ce qui était très difficile, alors ça c'est le genre de réalité qui arrive au moment après coup, c'est qu'au fond quand quelqu'un entend quelqu'un parler sur scène, eh ben, il a envie de comprendre évidemment, c'est ce qui est le plus naturel. Donc la musique commence aussi à gêner quelquefois la compréhension, parce que c'est un texte compliqué, parce qu'il y a beaucoup de textes qui se passent. Donc enfin il y a toujours une sorte il y a une sorte de bataille, et c'est pareil, c'est une pièce qui a été beaucoup discutée, parce que certains ont dit oui mais alors c'est de la musique qui accompagne, ou alors l'autre c'est le texte et le trop, enfin, parce que c'est à mon avis c'est un spectacle qui est vraiment à la limite des deux mondes. Je pense que c'est l'intérêt du spectacle, mais c'est le problème du spectacle. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas musiciens, mais qui viennent écouter, en général, réagissent plutôt bien. C'est la raison pourquoi ça a eu, disons, un succès assez grand et que ça a été repris des tas de fois. Mais c'est une chose problématique. Moi, je lui demande toujours, mais bon, vous vous êtes ennuyé pendant une heure, oui ou non? En général, non. Alors après, de savoir si c'est parce que le texte est surtout bien, ou si c'est la musique qui est surtout bien, ou si c'est l'actrice qui est surtout bien, je pense que c'est des problèmes périphériques. Mais c'est sûr qu'on atteint un moment donné, de faire parler quelqu'un, justement, est une chose assez délicate. Aussi, par exemple, récemment, juste au mois de mars, il y a une reprise, une nouvelle production qui était à Helsinki. Et là, c'était extraordinaire pour moi. Ça a été aussi un moment où je me suis dit, oui, d'accord, parce que j'ai eu beaucoup de doutes sur cette pièce. Et où je me suis dit, oui, peut-être qu'au fond, j'ai quand même, c'est pas si fou que ça, ce que j'ai fait. Parce que l'actrice était une actrice professionnelle, mais elle est aussi musicienne professionnelle. Alors, elle a complètement elle jouait le jeu comme si c'était une chanteuse. C'est-à-dire que, pour expliquer le problème que j'ai eu avec Anne Bennett, qu'on voit, on va voir très vite dans le film, c'est que elle a décidé, après Marthe Keller, qui était une actrice qui était très émotive, qui a beaucoup été... Elle a vécu Cassandre, elle a fait que ça, alors à la fin, elle était complètement hystérique. Et Anne, Bennett, c'est une grande famille, c'est une grande famille d'acteurs, c'est la fille de Bennett qui était dans le dernier métro, qui était le mari de Catherine Deneuve, c'est la sœur du petit tombour Blechtrommel. C'est une grande famille de comédiens, c'est des vrais comédiens, et une professionnalité extraordinaire. C'est-à-dire que, je veux dire, elle n'a aucun problème. Mais non, par contre, elle a décidé qu'elle voulait... Elle a malheureusement vu le truc de Marthe Keller, donc elle a décidé qu'elle voulait absolument garder une distance avec la musique, et surtout ne jamais se laisser aller par la musique. Alors ça a des conséquences, quelquefois, au niveau du déroulement musical, néfastes. Et surtout, ça veut dire que ça pousse ces deux bords loin de l'autre, le théâtre et la musique. Parce qu'à un moment donné, par exemple, il y a toute une montée, et l'idée, c'était un geste assez simple où elle dit « belle », l'orchestre, moi, l'épouvantable, et puis ça continue. Donc, l'idée, c'est que la voix allait monter, et allait faire quand même, monter, et donc, et c'est un moment où une sorte d'absurdité, elle est prisonnière, et le seul problème de ces, des filles autour d'elle, c'est de savoir qu'elle est belle, alors qu'elle va vers la mort, et alors que ça lui paraît complètement absurde, donc elle s'insurge contre cette idée qu'elle soit belle, mais elle est là, et ça monte, et pour moi, c'est belle, donc il faut amener. Et puis, c'est ce que je disais toujours, pour moi, c'est le problème d'un geste, il faut avoir une résolution, etc. Là, alors ça monte, et puis c'est belle, et puis elle s'arrête, belle, moi, c'est complètement désintéressé. Alors, la conséquence de ces coups devient un problème. Et ça, c'est le genre de choses où, effectivement, j'étais pas très heureux de cette production, plus ça allait, j'étais moins heureux de cette production, parce que... Ce problème arrivait de plus en plus, et elle tirait les choses, elle voulait absolument pas qu'il y ait de communication entre la musique et le texte. Bon, maintenant on va peut-être écouter, regarder certaines choses, on pourra reparler, parce que j'ai quelque part, repris certaines, ça c'est vraiment dans toute la pièce que d'essayer vraiment que le mécanisme musical dépende du sens du texte. C'est-à-dire que, par exemple, alors il y avait des trajectoires. Au début, c'est la musique qui lance le texte, si j'ose dire. Mais, bon, il y a aussi deux grandes parties électroacoustiques, uniquement des séquences sur des sound files, sur un direct disc, électronique. Et puis, la partie centrale, c'est-à-dire que comme elle commence à le début de la pièce, c'est ce début, elle se souvient de, elle se commence à mettre en place certains moments. Donc il y a pas encore une chronologie des choses. Et puis le milieu de la pièce, c'est le moment qui me paraissait vraiment important, c'est le moment de ce qu'on appelle le moment du banquet. C'est le premier moment dans l'adaptation que j'ai fait où il y a une chronologie sur 10 minutes, 15 minutes. C'est le moment où elle explique, Christa Wolf explique, c'est le moment où la guerre se met en place. C'est le moment d'un malentendu énorme entre Hélène et... Mais c'est le moment où vraiment elle analyse comment, lors d'un banquet, cette guerre se met en place. Donc pour moi, c'était ça, je voulais absolument qu'on comprenne. Donc à ce moment-là, la musique se retire un peu. Mais la musique, qu'est-ce qu'elle fait ? Une action très simple et très statique. C'est, elle explique, pour moi, c'était, elle explique comment se met un mécanisme, comme un petit coucou suisse, une petite horloge, qui ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe avec, sur un malentendu, il va y avoir une autre réaction, sur cette réaction, il va y avoir un autre malentendu. Et puis, puisque tout ça, vous savez que l'idée de la guerre de Troie, c'est que les Troyens avaient enlever Hélène. Donc la guerre, l'expédition des Grecs, c'est aller reprendre Hélène. L'idée de Christa Wolf, qui est très fort, c'est de dire, en fait, ça n'a jamais été les Troyens qui ont enlevé Hélène, c'est en fait un roi égyptien, et c'est bien le fils Paris qui part pour aller prendre cette Hélène, mais il se la fait voler, en fait, par le prince. Et donc, ils n'ont pas là. Mais comme il ne veut pas perdre la face, eh ben, il engage quelqu'un qui met une couverture, et donc ça devient le symbole des Troyens qui ont vaincu les Grecs. Et toute cette guerre va se passer sur un malentendu, puisque Hélène n'est pas là depuis longtemps, enfin, n'a jamais existé. Donc, elle arrive à démontrer justement l'inutilité, enfin sur l'absurdité de cette guerre, et donc au mieux décrire le mécanisme. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, par exemple, pour un exemple très simple, c'est qu'à ce moment-là, je mets un petit mécanisme en place, une petite horloge suisse, et qui ne s'arrête pas, et qui grandit, jusqu'à l'éclatement donc qui est la fin de cette deuxième partie. Enfin. Donc, et donc tout le temps en permanence, là vraiment, j'ai toujours cherché dans la musique une construction, une structure qui soit absolument donnée par le texte. Alors, malheureusement, ce matin en regardant, je me suis rendu compte que j'avais pris la mauvaise cassette. C'est-à-dire que c'est pas la cassette que la télévision. Donc ça, c'est une émission de télévision qui a été faite par la télévision allemande. Donc dans la production du Châtelet, c'était sur la grande scène du Châtelet, il y avait un décor, c'était de... puis à Lucerne, c'était pareil. Il y a eu plusieurs genres de productions. La production d'ensemble moderne, c'est celle qui a tourné le plus, parce que je vous dis, ils l'ont fait partout. Et c'est une chose très petite. C'est Christophe Martala qui a fait la mise en espace. Et donc l'idée, c'est simplement d'avoir vraiment les musiciens sur scène, Anne Bennett, qui est immobile pendant tout le premier passage, pour se lever juste... bon, vous allez voir, il y a une sorte d'immobilité dans la scène. Alors, mon problème, c'est qu'il manque les 3-4 minutes du début, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, a enregistré ça et qui me l'avait envoyé. Et malheureusement, ils ont exactement les mêmes couvertures et j'ai pris la mauvaise. Alors, juste pour vous faire écouter le début, je vais vous faire écouter un enregistrement IRCAM juste des 3-4 premières minutes, en disant tout de suite que c'est très mauvais comme... Ça y est, ben, je vais même oublier ça, je crois. C'est pas vrai. Je crois qu'il est temps que je prenne des vacances. Excusez-moi. Voilà, donc c'est un enregistrement de la première, avec Marthe Keller. Donc on va passer d'abord avec Marthe Keller. Alors c'est assez insupportable, parce que c'est-à-dire que c'est Radio France qui ont simplement mis leur câble dans l'amplification de l'IRCAM. Donc on entend très fort la voix, très fort l'électronique, et pas du tout, pas très peu les instruments. Mais c'est juste pour vous donner l'idée du début. Et après on va passer à ça. Je vous propose peut-être de quand même regarder 15 minutes. Du début, et on en reparlera à ce moment-là. Ah, mais j'ai d'abord 2-3 minutes.
Apollon te crache dans la bouche. Cela signifie que tu as le don de prédire l'avenir. Mais personne ne te croira. Avec ce récit, je descends dans la mort. C'est ici que je finis, défaillante et rien. Rien de ce que j'aurais pu faire, ne pas faire, pu vouloir ou penser, ne me reconduit vers un autre destin. Au-dessus de Mycène, le même ciel qu'au-dessus de toi. Arrivé jusqu'ici, a trouvé son répondant en moi-même. Une fois, autrefois, oui,
c'est le mot magique. La fin de Troie était prévisible. Nous étions perdus. Aînés, ses hommes avaient décroché. Myrine le méprisait. Et je tente de lui dire que non seulement je comprenais Aînés, mais que je le reconnaissais. Comme s'il se fût agi de moi. Traite, disait Myrine. Elle ne m'écoutait pas. Ne me comprenait peut-être même pas. Car depuis que m'ont enfermé, j'ai pris l'habitude de parler à voix basse. Ce n'est pas la voix qui avait souffert comme ils le pensaient tous. C'est le temps. Le temps de la prédiction a disparu.
Bon, ça c'est là, on va se retrouver maintenant sur la vidéo. Donc, c'est assez insupportable parce que ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais ça vous donne juste un peu une idée de là où on se trouve, donc assez au début. Et maintenant on va passer au...
Der gleiche Himmel über Mykene wie über Troja, nur leer. Etwas in mir entspricht der Himmelslehre über dem feindlichen Land. Noch alles, was mir widerfahren ist, hat in mir seine Entsprechung gefunden.
Okay. Malheureusement, la musique passe
einmal
est très faible früher, par rapport à dans cette copie, dans la copie.
Früher. Das ist das Zauberwort. Trojas Ende war abzusehen, wir waren verloren. Aeneas mit seinen Leuten hatte sich abgesetzt. Myrine verachtete ihn. Ich versuchte ihr zu sagen, dass ich Aeneas, nein, nicht nur verstand, erkannte, als sei ich er. Verräterisch, sagte Myrine, die mir nicht zuhörte, mich vielleicht gar nicht verstand, denn seit ich gefangen war, spreche ich leise. Die Stimme ist es nicht, wie alle meinten. Die hat nicht gelitten. Es ist der Ton. Der Ton der Verkündigung ist dahin. Hier spricht keiner meine Sprache, der nicht mit mir stirbt. Sie lacht, höre ich die Weiber sagen, die nicht wissen, dass ich ihre Sprache spreche. Schaudernd ziehen sie sich vor mir zurück. Überall das Gleiche. Myrine, die mich lächeln sah, als ich von Aeneas sprach, schrie. Unbelehrbar sei ich. Ich legte meine Hand in ihren Nacken, bis sie schwieg. So standen wir zum letzten Mal beisammen. Wir wussten es. Aeneas und ich, wir haben uns nicht mehr berührt. Die Ohnmacht der Sieger, die stumm einander meinen Namen weitersagen. Greise, Frauen, Kinder. Über die Grässlichkeit des Sieges. Über seine Folgen, die ich schon jetzt in ihren blinden Augen sehe. Mit Blindheit geschlagen. Alles wird sich vor ihren Augen abspielen und sie werden nichts sehen. So ist es eben. Und bis dahin nur das Gebrüll und der Befehl und das Gewinsel und das Jawohl der Gehorchenden. Jetzt kann ich brauchen, was ich lebenslang geübt, meine Gefühle durch Denken besiegen, die Liebe früher, jetzt die Angst. Ich sprang mich an, als der Wagen, den die müden Pferde langsam den Berg heraufgeschleppt hatten, zwischen den düsteren Mauern zum Halten kam, vor diesem letzten Tor. Als der Himmel aufriss und Sonne auf die steinernen Löwen fiel, die über mich und alles hinwegsehen und immer hinwegsehen werden. Angst kenne ich ja. Doch dies ist etwas anderes. Die Leute hier, naiv, wenn ich sie mit meinen Troern vergleiche, sie haben den Krieg nicht erlebt, zeigen ihre Gefühle, betasten die fremden Gegenstände, mich nicht. Man hat ihnen meinen Namen gesagt, da sah ich, was ich gewöhnt bin, ihren Schauder. Die Frauen schätzen mich ab, sie streiten sich, ob ich schön sei. Schön? Ich, die Schreckliche. Ich, die wollte, dass Troja untergeht. Das Gerücht, das Meere überwindet, wird mir auch in der Zeit vorauseilen. Pantoos, der Priester der Grieche, wird er recht behalten. Aber du lügst ja, sagte er. Aber du lügst ja, meine Liebe. Du lügst, wenn du uns allen den Untergang prophezeist. Aus unserem Untergang holst du dir, indem du ihn verkündest, deine Dauer. Dein Name wird bleiben, und das weißt du auch. Hekabe, die Mutter, hat mich früh erkannt, und sie hat sich nicht weiter um mich gekümmert. Dies Kind braucht mich nicht, hat sie gesagt. Dafür habe ich sie bewundert und gehasst. Priamos, der Vater, brauchte mich. Der Krieg formt seine Leute. So, vom Krieg gemacht und zerschlagen, will ich sie nicht im Gedächtnis behalten. Nein, vergessen will ich den zerrütteten, verwahrlosten Vater nicht. Doch auch den König nicht, den ich als Kind über alle Menschen liebte, der es nicht ganz genau nahm in der Wirklichkeit, der in Fantasiewelten leben konnte, nicht ganz scharf die Bedingungen ins Auge fasste, die seinen Staat zusammenhielten, auch die nicht, die ihn bedrohten. Das machte ihn nicht zum idealen König. Doch war er der Mann der idealen Königin, das gab ihm Sonderrechte. Abend für Abend, ich sehe ihn noch, ist er zur Mutter gegangen, die in ihrem Megaron saß, auf ihrem hölzernen Lehnstuhl, einem Thron ähnlich, und an den der Vater sich liebenswürdig lächelnd einen Hocker heranzog. Dies ist mein frühestes Bild, denn ich, Liebling des Vaters und an Politik interessiert wie keines meiner Geschwister, ich durfte bei ihnen sitzen und hören, was sie redeten, oft auf Priamos Schoß, die Hand in seiner Schulterbeuge, die sehr verletzlich war und wo, ich sah es selbst, der Speer des Griechen ihn durchbohrte. Für alles auf der Welt nur noch die Vergangenheitssprache. Die Gegenwartssprache ist auf Wörter für diese düstere Festung eingeschrumpft. Die Zukunftssprache hat für mich nur diesen einen Satz. Ich werde heute noch erschlagen werden. Das alte Lied. Nicht die Untat, ihre Ankündigung macht die Menschen blass, auch wütend, ich kenne es von mir selbst, und dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht. Da sind wir wie in allem Übrigen alle gleich. Der Unterschied liegt darin, ob man es weiß. Ich habe es schwer gelernt, weil ich gewohnt, die Ausnahme zu sein, mich unter kein gemeinsames Dach mit allen zerren lassen wollte. Aber hatte ich denn nicht, wie alle, kaum dass ich zum ersten Mal geblutet mit den anderen Mädchen im Tempel der Athene gesessen, sitzen müssen. Die Zypresse, unter der ich saß, könnte ich noch bezeichnen, falls die Griechen sie nicht angezündet haben. Die Form der Wolken könnte ich beschreiben. Ich denke an den Geruch von Oliven und Tamarisken. Die Augen schließen. Ich kann es nicht mehr, konnte es aber. öffnete sie einen Spalt breit und sah die Beine der Männer. Dutzende von Männerbeinen in Sandalen nur. An einem Tag kriegte ich fürs Leben genug von Männerbeinen. Ich spürte ihre Blicke im Gesicht, auf der Brust. Nicht einmal sah ich mich nach den anderen Mädchen um, die nicht nach mir. Wir hatten nichts miteinander zu tun. Die Männer hatten uns auszusuchen und zu entjungfern. Ich hörte lange, ehe ich einschlief, das Fingerschnipsen und in wie vielen verschiedenen Betonungen das eine Wort Komm! Um mich wurde es leer. Nach und nach waren die anderen Mädchen abgeholt worden. Die Töchter der Offiziere, Palastschreiber, Handwerker, Wagenlenker und Pächter. Die Lehre kannte ich von klein auf. Ich erfuhr zwei Arten von Scham. Die gewählt zu werden und die sitzen zu bleiben. Ja, ich würde Priesterin werden. Um jeden Preis. Mittags, als Aeneas kam, fiel mir auf, dass ich ihn seit langem schon in jener Menge sah. Er kam stracks auf mich zu. Verzeih, sagte er, eher konnte ich nicht kommen, als wären wir verabredet gewesen. Wir gingen in eine weit entfernte Ecke des Tempels und überschritten dabei, ohne es zu merken, die Grenze, hinter der die Sprache aufhört. Wir wussten, was von uns erwartet wurde. Aber wir sahen uns beide nicht imstande, den Erwartungen zu entsprechen. Jeder suchte die Schuld für unser Versagen bei sich. Die Amme, die Mutter, die Priesterin, sie alle hatten mir die Pflichten des Beilagers eingeschärft. Aber sie rechnete nicht damit, dass die Liebe, wenn sie plötzlich dazwischen tritt, den Pflichten des Beilagers im Wege sein kann, so dass ich mir nicht zu helfen wusste und in Tränen ausbrach über seine Unsicherheit, die doch nur durch meine Ungeschicklichkeit verschuldet sein konnte. Jung, jung sind wir gewesen. Wie er mich küsste, mich streichelte und berührte, ich hätte getan, was er wollte. Nur schien er nichts zu wollen. Ich sollte ihm etwas verzeihen. Aber ich verstand nicht was. Gegen Abend schlief ich ein. Ich weiß noch, ich träumte von einem Schiff, das den Aeneas über glattes, blaues Wasser von unserer Küste wegführte und von einem ungeheuren Feuer, das sich, als das Schiff sich gegen den Horizont hin entfernte, zwischen die Wegfahrenden und uns, die Daheimgebliebenen, legte. Das Meer brannte.
Bon. Je vais arrêter parce que c'est... j'avais oublié de vous dire que c'était en allemand, cette version-là. Parce que, donc, déjà à l'époque, j'avais déjà prévu aussi une version allemande. Bon, donc, la copie est très mauvaise, malheureusement, et c'est vrai que la musique est très au fond. Mais donc, déjà là. Il y avait la première trajectoire, qui est la trajectoire que c'est la musique qui domine au début, peut-être pas trop ici, mais rien qu'au niveau acoustique, non, en réalité, oui, parce qu'elle doit énormément donner pour arriver à passer, simplement, parce que la musique au début est très forte. Là, pour la télévision, visiblement, plus c'est la copie qui... Mais, et donc, peu à peu, c'est aussi... Là, on arrive, c'est la rencontre d'aînés, donc de Cassandre et d'aînés, et qui est une des choses importantes aussi dans la pièce. Donc à ce moment-là, justement, la musique revient derrière, et c'est
la voix qui va prendre le dessus. Une autre chose que j'ai faite dans, dans la pièce, c'est il y a quatre, pas des citations, mais des clins d'œil à quatre, je crois que c'est quatre, quatre compositeurs, quatre pièces, qui sont des pièces qui ont été, à mon avis, des pièces qui ont été très importantes dans, dans l'histoire de la musique scénique, c'est-à-dire tout ce qui... Et donc, c'est un, c'était, il y a un moment, il y a un clin d'œil au Monde Arabe Merveilleux de Bartok. À un moment donné, il y a un petit clin d'œil à Schoenberg avec le Pirou Lunaire. Là où ça se termine, en fait, là où on termine, il y a un clin d'œil à l'histoire du soldat de Stravinsky, donc il y a une sorte de petit choral qui arrive. Et plus tard, il y a un clin d'œil à Labyrinthus II de Berlioz. Ce sont toutes des pièces, disons, où la voix est employée d'une manière... enfin, où l'idée scénique est une, à mon avis, était un pas un peu en avant. Et ce que je veux dire aussi par rapport à l'écriture pour scène, moi j'ai fait beaucoup de musique de ballet aussi, c'est que je pense, par exemple, la musique de ballet, c'est autant que ça d'ailleurs, mais que souvent ce sont des pièces, qui, enfin, cette contrainte supplémentaire extérieure, ce sont des moments où un compositeur va, va devoir ou oser faire des choses qu'il n'aurait pas faites avant. Je prends Jeu de Debussy. Jeu de Debussy, à mon avis, qui était un grand pas en avant dans sa musique, n'a pu se faire qu'à travers l'idée du ballet. Daphnis et Chloé, pareil, je pense. Le Cercle du Printemps, enfin tous les ballets de Stravinsky, en sent très fort. Comme la forme a été imposée, ou l'idée de Petrushka, par exemple, c'est une forme qui ne pouvait pas exister sur la scène et qui, en même temps, en fait que ces compositeurs-là, eux-mêmes, ont avancé un grand pas. Et c'est vrai que j'aurais jamais osé écrire une sorte de petit choral comme là, ça se termine, dans une pièce normale. Mais là, je me suis dit, bon, faut imaginer aussi que c'est un spectacle qui fait 70 minutes. Donc, le temps est organisé d'une manière beaucoup plus large, donc il faut des... voilà. Je voulais vous peut-être avancer, juste vous passer une deuxième séquence, peut-être pas aussi longue, juste sur ce passage que je vous avais... Donc, la pièce, globalement, il y a l'introduction, est en trois, c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux grands passages uniquement de bandes, qui font que ça c'est le moment du banquet, grosso modo, et ça c'est la guerre de Troie même, et ça c'est disons l'introduction. Et à l'intérieur de ça, quand même, il y a des interludes musicaux, il y en a deux, où d'un coup c'est le contraire, c'est la voix disparaît et c'est la musique qui apparaît. Mais donc ici et ici, c'est la musique qui prédomine, et ici au milieu, donc c'est le moment où et peut-être que je voudrais juste faire écouter ce passage-là. Et puis après, je crois que on va passer des questions plutôt. Alors, excusez-moi, il faut que j'avance et je ne suis pas très.
Versteinerte, wenn sich ihr näherte. Priamos schien es allen recht machen zu wollen. Paris aber, mein geliebter Bruder Paris, gehörte schon dem Eumelos. Der schlanke, schöne Jüngling, hingegeben an den massigen Mann mit dem Pferdegesicht. Keiner von uns, keine Seherin, kein Orakelsprecher hat an jenem Abend auch nur den Hauch einer Ahnung verspürt. Die einen wurden immer stiller und die anderen, die dem Eumelos anhingen, lauter. Paris, der schon zu viel getrunken hatte, sprach den Griechen Menelaus, der sein Nachbar war.
Ce que vous avez déjà entendu dans d'autres pièces, c'était une chose qui était une constante longtemps, c'était ces petites impulsions.
Et là, donc, on a fait... dem Sohn des Gastgebers höflich Bescheid, bis seine Fragen so frech wurden, dass HKB,
et donc là, il se passe vraiment pendant très longtemps, la musique se retient avec quelques petites choses comme ça qui sont liées au texte, mais en fait, il y a ces pulsations permanentes, mais toujours en dessous. Et pendant longtemps, j'ai jamais. C'est-à-dire que je le pousse très loin. Enfin, pour moi, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et ça devient assez obsédant dans le.
Ich, Paris, bin es, der des König Priamos Schwester von den griechischen Feinden wiederholt. Wenn sie mir aber verweigert wird, findet sich eine andere.
Pas très présent, parce que la musique est tellement en arrière.
Schöner als sie, jünger, edler, reicher. Es ist mir von einer Göttin versprochen worden, dass ihr es wisst. Niemals vorher herrschte im Palast von Troja solche Stille. Ein jeder spürte, ein Maß wurde hier verletzt. So hatte nie ein Mitglied unserer Familie sprechen dürfen. Ich aber, ich allein sah, was in dieser Stunde seinen Ausgang nahm, war unser Untergang. Stillstand der Zeit, endgültige Fremdheit mir gegenüber und jedermann. Bis endlich die entsetzliche Qual als Stimme sich aus mir, durch mich hindurch ihren Weg gebahnt hatte und sich losgemacht. Ein pfeifendes, ein auf dem letzten Loch pfeifendes Stimmchen, das mir das Blut aus den Adern treibt, das, wie es anschwillt, grässlicher wird, alle meine Gliedmaßen ins Schleudern bringt. Aber die Stimme schert das nicht. Frei hängt sie über mir und schreit, schreit, schreit. Wehe, schrie sie, wehe, lass das Schiff nicht fort.
Bon, je vais arrêter parce que ça m'agace l'enregistrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs choses qui viennent dans le texte et qui fait que pour moi, je pense quand même que c'est fondamentalement pas différent que si c'était que de la voix parlée. C'est que, alors, il y a tous ces rapports entre la musique et enfin, le chef qui doit suivre, etc. Mais en même temps, quand elle doit parler, je lui impose des temps dans lesquels elle doit parler. Donc ça l'oblige, par exemple, c'est un exercice, un moment très très difficile pour elle, parce que pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle est obligée, et encore elle résiste, mais les autres actrices qui ont fait ça, ils sont obligés d'aller à une vitesse énorme, et la diction, et ils doivent continuer, ils ne peuvent jamais on ferait ça. On prendrait le temps, on ferait bien passer le mot, parce que, il y a un rapport espace-temps qui est complètement différent. Et là elle est obligée de suivre ce carcan, et ça l'oblige à une vitesse de diction. Et c'est très intéressant, par exemple, de parler avec des gens du théâtre après le spectacle, souvent de voir où ils se rendent, pour eux c'est absolument clair que la musique l'oblige à faire des choses que jamais on aurait en théâtre sinon. Et une certaine intensité, je veux dire, qui, parce que ce moment, enfin, quand on le suit depuis le début à la fin, je trouve que c'est un moment très intense, grâce à elle aussi, grâce aux autres actrices, évidemment, parce que simplement, il y a énormément de choses dites très fortes, quelques points, comme vous voyez, qui s'arrêtent, ou sur un mot, le chef doit interrompre et repart, il y a toutes sortes de relations internes, mais sinon, il y a une vitesse incroyable, une intensité de diction qui est très forte. Voilà. C'est assez global, comme toujours, sur le rapport. C'est simplement, disons, par deux exemples, comment moi je, pour deux pièces en tout cas, conçu le rapport texte et musique. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Parce qu'on arrive au bout de moi. Alors, je disais que c'était en allemand, j'avais oublié ce détail.
Oui, alors, ma question. Une petite question technique sur la manière dont la musique détourne la parole. Comment vous avez mis ça en place?
Détour.
À la fin d'une phrase, il y a dans le temps d'une respiration, il y a quelques impulsions. Pourtant, on a quand même l'impression qu'elle...
Non, je voulais éviter, enfin, des scansions rythmiques. À certaines fois, elles apparaissent plus tard, beaucoup. Mais, non, c'est justement ça, que ce soit, il y a un système de mots qui sont soit entourés, et ils ont soit un système de flèches vers le haut ou vers le bas. Vers le haut, c'est elle qui donne, alors là, dans ce cas-là, c'est elle. C'est-à-dire qu'il y a ce continuum, et le chef doit suivre ce qu'elle dit, et il y a c'est pareil, il y a, bon, il y a des arrêts qui sont liés au mot, donc c'est elle qui donne le mot et ils stoppent et ils doivent reprendre. Il y a justement des actions parallèles comme c'est, donc il y a quand même la musique qui continue, mais lui doit, le chef, suivre, la suivre elle et faire ses interventions par rapport aux mots qui sont dits. Donc, parce que ce moment-là, c'est vraiment, donc, c'est elle qui est maître, quand même maître du jeu, sauf que malheureusement, en même temps, il y a un nombre de mesures qui fait qu'elle est quand même obligée d'avoir un... Et, il faut, et ça, c'est une chose de mémoire, ils arrivent très bien à, avoir à savoir plus ou moins quel flux. Puis il y a, enfin, il y a des systèmes de sécurité, si j'ose dire. Mais dans d'autres cas, c'est elle qui doit vraiment apprendre, il y a telle et telle chose qui va se passer. Par exemple, avant, on avait des sortes de... Bon, là, ça paraissait vraiment des nappes, mais quand elle disait, en français, c'est... il n'avait qu'à nous choisir et nous dire « viens ». Donc là, il y a deux actions, et entre autres le « viens », où il faut absolument qu'elle entende le crescendo, et au bout du crescendo, c'était elle de dire « viens ». Enfin, donc, il y a toutes sortes de rapports qui existent. Mais c'est, dans ce cas-là, c'est vraiment... les mots qui déclenchent les actions, qui arrêtent l'action.
Et pour la métrique, donc, dans ce passage-là, elle existe, mais elle n'est pas rapportée directement au texte.
Non, là, elle n'est pas rapportée au texte. Là, c'est uniquement le mécanisme.
Et le chef, ça doit être difficile pour le chef d'orchestre d'être dans les deux à la fois.
Oui, c'est très difficile, surtout quand il ne parle pas forcément la langue. Enfin bon.
Je ne sais pas si vous comprenez l'allemand, mais est-ce que vous avez vu votre spectacle dans une langue que vous ne comprenez pas?
Oui.
C'est-à-dire hors signification.
Non, je comprends plutôt bien l'allemand, mais Helsinki. Justement, Helsinki. C'était en finlandais.
Et donc, est-ce que ça vous a amené des réflexions par rapport à la forme de la pièce, le fait de ne plus avoir... Enfin, peut-être vous connaissez la pièce et la signification déjà, mais d'essayer d'imaginer ce spectacle sans signification?
C'est vrai que je connais les sens, enfin le sens de la vie, mais là je ne comprenais pas du tout. Au contraire, ça m'a beaucoup. Enfin, bon, aussi parce que elle a vraiment, donc je vous dis, là elle a vraiment joué le jeu de
la musique.
Oui, beaucoup plus fort. Bon, ici je vous dis c'est un peu difficile parce qu'on entend la voix comme ça et la musique vaguement derrière, ce qui fait qu'on a un plan qui est toujours pareil parce que la voix est très forte tout le temps. Et on entend des trucs un peu derrière de temps en temps qui apparaissent. Donc et à Helsinki, c'était une réalisation un peu pareille, parce qu'il y avait aussi des musiciens sur scène, sauf que c'était d'un côté et elle était de l'autre côté. Mais donc, la salle où elle était, la musique était très très forte, enfin très 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 dedans. Non, moi au contraire, je vous disais tout à l'heure, c'est la version qui m'a rassuré même. Parce que justement, je ne comprenais absolument pas les mots, le moment, je ne pouvais pas écouter le texte, je pouvais écouter que le son du texte. Et au contraire, justement, il y avait énormément de tension. Elle était vraiment fantastique. Pour moi, c'était la meilleure version, en fait. Mais bon. Mais je conçois, là, moi, j'avoue, sincèrement, je suis toujours. Enfin, j'ai jamais regardé jusqu'au bout. J'ai d'original, donc on entend un peu plus la musique, on a le début. Mais j'ai jamais tourné une couche jusqu'au bout parce que... Bon, enfin... Voilà. Alors, je sais pas, bon, comme c'est la dernière séance, si vous avez des questions par rapport à d'autres séances ou à d'autres choses plus générales que par rapport au texte, sinon, je vous souhaite un bon concert demain. Je vous souhaite, je sais pas, parce que... Enfin, beaucoup de choses. Oui, ouais, mais je vous en prie, il n'y a pas de...
J'avais d'autres questions, toujours à propos de Cassandre.
Ah, pardon, il y avait une tension qui... Je me disais, bon, ben voilà, c'est fini.
Oui. C'était pour le... Je l'ai vu, mais je l'ai vu en allemand, dans cette... probablement cette version-là.
Ah oui, c'était aux Amandiers, là. Ouais.
Oui, c'est ça.
Avec la double... Oui, il y avait la... Avec... C'était en bas, ou
je sais plus quand. Oui. La traduction qui passait dessous. Et... Vous l'avez conçu vous l'avez pensé en français d'abord?
Non, français et allemand tout de suite. Parce qu'au départ, le projet était avec Marc Keller de le faire en allemand et en français.
Mais simultanément ou alternativement?
Non, c'est-à-dire que ça devait se créer plus ou moins parallèlement, enfin à deux endroits différents, de suite.
mais ça ne s'est pas fait. Donc après, c'est... Non, justement, il faut faire un peu attention. Enfin, surtout là, mais c'est marrant, là, celui qui a fait la traduction et du finlandais, là, je n'ai absolument pas eu à intervenir. C'était le metteur en scène et aussi violoncelliste et chef d'orchestre. Enfin, c'est d'ailleurs le mari de la... Donc c'est une famille incroyable. Et donc lui, il a vraiment... alors là, je fais confiance aux gens. Enfin, paraît-il, c'est une traduction très très bonne, très très bien faite. Et surtout, ce que moi j'ai senti, c'est qu'il a absolument... il a tout fait pour garder la métrique, pour respecter le déroulement musical. Et ça, j'ai trouvé très fort. Parce que, donc en allemand, il y a quand même certaines choses qui changent un peu par rapport...
Oui, en fait, c'était ça que je me posais comme question. Dans quelle mesure la traduction changeait des choses?
Mais par exemple, cette scène-là est beaucoup plus difficile encore en finlandais, parce que là, par exemple, le finlandais est une langue qui prend, si j'ai bien compris, plus de temps. Enfin, il faut plus de mots pour faire une même phrase, en général. Donc, elle a encore plus, un quart de mot en plus à dire dans le même temps. Mais ça donnait encore plus une sorte de frénésie trop forte.
Just a general question. What kind of music are you listening to these days? What could we expect to see on your CD player at home?
Well, first of all, I'd say music. Tout d'abord, je dirais que actuellement, je suis en train d'écrire une musique que je crois assez différente. Parce que vous avez entendu ici, finalement, c'est des musiques plus anciennes déjà, y compris Forme Fragment, qui est déjà une version nouvelle d'une pièce plus ancienne. Mais qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui? En fait, actuellement, j'écoute très peu de musique, pour être franc. Tout simplement. La musique que je reçois le plus actuellement, c'est la musique de ma petite fille. Donc, c'est-à-dire, c'est le rap, le tic-tac-toe, tout ça. Non, mais je m'intéresse beaucoup aux autres musiques. Enfin, moi-même, j'ai passé beaucoup de mon enfance à faire du... J'ai gagné ma vie quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans. J'étais musicien de studio. J'ai fait de la musique pop pour gagner ma vie. J'ai fait beaucoup de jazz. C'est d'ailleurs à la Berklee School of Music que j'ai rencontré Luca Francesconi il y a très très longtemps. Je m'intéresse beaucoup aux genres différents de musique. Je respecte beaucoup parce que j'ai des très bons amis qui sont des très très bons musiciens, mais qui sont des musiciens de studio, par exemple, ou des musiciens pop. Mais je ne crois pas du tout, alors par contre, au crossover. Ça, je suis aux fusions des genres, ça, je ne crois pas du tout. Parce que ça, c'est une vieille discussion que j'ai toujours, mais que je dis toujours la même chose. C'est, je ne crois pas que l'essence... Ce n'est pas une question de qualité, je dis toujours, mais c'est très difficile. Par exemple, le jazz, pour moi, j'adore le jazz, mais c'est pas une question de qualité, mais pour moi, c'est lié à ce que pour moi, ce que représente la composition pour moi, ce que je disais peut-être la première fois, que c'est une chose qui est une expérience éthique. Enfin, moi, une chose, c'est comment je vis ma vie, comment j'essaye de recevoir la vie. Et ça, c'est pour moi la raison de faire de la musique dite classique est là. C'est-à-dire que je dis toujours je disais l'autre jour, quand on a un objet qu'on ne comprend pas, on va essayer de comprendre. Si on reste ouvert, qu'on essaie de comprendre cet objet, on va faire un chemin logique qui va nous permettre en tout cas d'accepter ou de comprendre, d'observer une certaine partie de cet objet. C'est une manière de s'ouvrir. Et moi, par mes expériences personnelles, c'est pareil, je parle toujours de Mozart. Quand j'étais, souvent quand j'allais écouter, je me souviens de deux, trois cas. Je vais écouter un Mozart et c'est un moment où je pense que les chefs-d'œuvre de musique, des gloires musicales sont des pièces où il y a une sorte de... ça devient très... il y a une sorte de trou noir, je dis toujours, à l'intérieur, quelque part,
où on va très profondément. C'est-à-dire que souvent, moi, quand j'écoute ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre, souvent, il y a un moment où je me perds. C'est-à-dire que je dirais, c'est pas que je m'ennuie, mais à un moment donné, je me rends compte que j'étais pas là. Mais c'est des moments où j'étais très, très profondément en moi-même. Mais ça, et ça, je pense que c'est que des pièces, des grandes pièces en cette capacité de vous envoyer à vous-même. Bon, c'est un peu difficile à expliquer ça. Et je pense que, par exemple, dans le jazz, ça, cette dimension-là, je ne l'ai jamais vécue personnellement. Simplement, disons, j'en ai fait beaucoup, j'ai été beaucoup à des concerts de jazz, j'ai beaucoup d'admiration pour des musiciens de jazz, mais j'ai toujours été à un concert et j'ai eu beaucoup de plaisir, mais je suis sorti de là, j'ai pas changé. Ma vie a été là, c'était un moment de bien, mais si j'ose dire, je fais comme ça et je continue. Alors que quand je vais dans un certain concert classique, j'ai l'impression que je vais là et finalement, il y a un petit quelque chose qui change. J'ai un peu progressé quelque part. Non, pas dans tous les concerts classiques, hein, je parle de certains moments clés. Et c'est toujours difficile de parler de ce genre de choses parce que il y a un livre très fameux, je cite toujours cet exemple. Par exemple, moi je suis un grand admirateur de Tarkovsky, le cinéaste russe. Et il a fait un livre qui s'appelait Scorpion in Time et qui a été très très mal perçu par beaucoup de gens. Parce que, Tarkovsky était quelqu'un qui avait une dimension spirituelle qui lui était très importante, et il essaye d'expliquer cette dimension spirituelle. Alors évidemment, c'est des choses qui... En fait, en général, je me refuse... quand je parle de musique, il y a un certain nombre de choses dont je me refuse à parler, parce que ça devient, des sphères intimes, et surtout que c'est extrêmement délicat à poser un axiome qu'on peut accepter. Dans ce livre de Tarkovsky, il essaye d'aller plus loin et d'expliquer un certain nombre de choses qui lui sont étaient très proches, mais ça donne à la lecture une certaine naïveté et qui a été très mal perçue au moment de la sortie du livre. Et donc je crois que c'est vrai que... Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ça avec la musique, que la musique classique a été une manière de m'enrichir, de moi, de me trouver. La composition, c'est une des choses, je crois, fondamentales que j'ai eu la chance de pouvoir très vite, de me rendre compte très vite. C'est la composition, c'est se trouver soi-même et essayer de vraiment s'amener soi-même plus loin. À un moment donné, donc à mes études, j'étais chez Klaus Huber et Klaus Huber avait un assistant qui s'appelait Brian von Herr, qui est un très grand compositeur aussi et qui est un très grand pédagogue aussi. Mais je me souviens très bien d'avoir eu 2-3 leçons avec Brian et très rapidement me rendre compte que, avec toute l'admiration que j'avais, que quand j'y avais une empreinte, c'était quelqu'un de très, très fort, très extrêmement brillant. Et que j'étais là et je me disais, mais oui, je commençais à me dire qu'il faudrait que je dise les mêmes choses que lui. Enfin, il y avait une sorte d'empreinte très forte qui se faisait. Et je me suis dit, oui, mais à un moment donné, c'était tellement fort qu'un jour, j'ai décidé, bon, non, moi, j'arrête, je ne veux plus maintenant. Parce que j'ai compris que moi, je ne m'appelle pas Brian von Herr, ni Klaus Huber, ni Magnus Lindberg, ni je suis que Michael Jarrell. Et que... C'est ça qui est important. Et c'est ça dans la composition, c'est arriver à se découvrir soi-même, à trouver un... et en même temps, à aller plus loin dans ça. Enfin, ça paraît paraître extrêmement... mais bon, enfin, c'est une chose qui me paraît très, très importante dans la composition. Voilà. Est-ce que c'était une quelque réponse? Alors, sur ces paroles bénites, je vais vous libérer, à moins qu'il y ait une autre question. Alors, à bientôt.